Frères et sœurs, je vous remercie de votre nouvelle invitation et de votre accueil, en particulier à la table du Seigneur. Nous allons ensemble nous concentrer sur un thème central de l'Écriture sainte et je vous invite à suivre la lecture de quelques versets à titre introductif dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3, je lirai les versets 8 à 14. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 3, verset 8. L'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. Tous ceux, en effet, qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la foi pour le faire. Et que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident, puisque celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Citation du prophète Habacuc. Or la loi ne relève pas de la foi, mais elle dit, celui qui fera ces choses vivra par elle. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions l'Esprit promis. Jusqu'ici, notre lecture. À la croix, Jésus, le Christ, a subi à leur place le châtiment mérité par les pécheurs, de sorte qu'ils n'ont pas à le subir eux-mêmes s'ils s'attachent par la foi à ce Jésus. Cette compréhension de l'œuvre accomplie par la mort du Christ à la croix, qu'on appelle techniquement la doctrine de la substitution pénale. Jésus-Christ s'est substitué sous la peine due au péché à tous les coupables. Donc cette doctrine est attestée dans toute l'histoire de l'Église, pratiquement à toutes les époques. Par exemple, dans l'Antiquité chrétienne, Athanase d'Alexandrie, qui a été un grand témoin de la divinité de Jésus face aux hérésies de son époque, donne aussi dans ses écrits une expression assez nette de cette doctrine. Cependant, c'est à la Réforme, au XVIe siècle, qu'elle est devenue tout à fait centrale pour la foi et la réflexion des chrétiens. Et depuis cette époque, elle s'est trouvée tout à fait déterminante pour ce qu'on appelle le christianisme évangélique, celui qui hérite particulièrement de cette réforme elle-même relativement multiple du XVIe siècle. On le voit à considérer la prédication, la centralité de la croix comme le châtiment subi par le Seigneur Jésus à notre place est évidente à travers plusieurs siècles. On le voit dans la piété, dans la prière des chrétiens évangéliques, on le voit dans leur cantique, et ce que nous avons chanté déjà le démontrait aussi. Mais il nous faut nous rendre compte que la modernité lui est profondément hostile. Cela, dès l'éclosion de cette modernité, dès le XVIe siècle, il y a eu un courant qu'on appelle le courant des Sauciniens, parce que ses principaux propagandistes ont été des membres de la famille Saucini, une famille italienne. Dès le XVIe siècle, la modernité s'est montrée pleine de ressentiment, d'aversion par rapport à cette proclamation du sens de la croix. Et je pense qu'on peut dire que la tendance n'a fait que s'accuser au fil du temps et qu'elle atteint de notre temps un paroxysme. C'est jusqu'à l'expression que vraiment je ne peux prendre que comme blasphématoire, horriblement blasphématoire, d'une théologienne féministe qui a pu dire que cette doctrine de la substitution pénale présente Dieu comme le modèle de la maltraitance des enfants. Vous vous rendez compte de ce qui peut être dit aujourd'hui couramment. Et la nouveauté des dernières décennies, c'est que des auteurs, des théologiens, des théologiennes qui se disent encore évangéliques sont entraînés par ce rejet et ils attaquent la doctrine. Je suis persuadé que cette doctrine est vraie et qu'elle appartient à l'essence de l'Évangile. Mais je souligne qu'il nous faut écouter les objections, qu'il nous faut prêter l'oreille à ceux qui réagissent de cette manière si négative. Il le faut par respect pour ces personnes et parmi eux d'authentiques frères et sœurs qui, à mon avis, sont gravement égarés, mais qui réagissent souvent très passionnément sur ce sujet et qui, en tout cas pour le monde contemporain, usent d'arguments qui paraissent persuasifs à un certain nombre. Il faut, par respect, essayer de saisir ce qui est en cause dans leur attitude, et il nous le faut pour pouvoir leur répondre. Et si Dieu veut bien se servir de nos paroles pour les persuader de la vérité que je viens de formuler. Alors je vais développer ce point en quatre parties, je vous les annonce pour que vous voyez à quelle vitesse nous allons progresser. D'abord, je voudrais rappeler l'attestation biblique, ce que je viens de résumer. Ensuite, écarter un certain nombre de fausses conceptions que certains attachent à cette doctrine. Souligner ce qu'elle ne dit pas, mais que parfois on lui fait dire. En troisième lieu, je voudrais essayer de cerner quels sont les lieux d'aiguillage décisifs. Ces points à partir desquels les uns choisissent telle voie et les autres telle autre. Et puis finalement, quelques réflexions sur le fruit que la méditation de ce sujet peut avoir pour la réflexion chrétienne, pour nous. Alors, l'attestation biblique d'abord. Je n'ai pas des heures, donc je vais résumer chaque fois ce qui me paraît le plus important. L'attestation biblique. Je crois que la Bible massivement nous atteste cette doctrine. Et chez ceux qui la rejettent et qui se disent évangéliques, je crois pouvoir dire que j'ai découvert assez atterré une véritable ignorance des textes. Et même parfois chez des théologiens, j'ai lui écrit parfois des articles pour répliquer à d'autres, montrant simplement par des citations que ce qui était prétendu était simplement faux. Il suffisait de donner une citation pour montrer que la chose n'était pas juste, qui était pourtant avancée. Le Nouveau Testament répète assez souvent que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a porté nos péchés sur le bois de la croix. C'est en particulier une expression qu'on trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Et cette expression, elle signifie techniquement, dans le langage de la loi de l'Ancien Testament, subir la punition correspondante. Il y a plusieurs passages, je vous donne une référence, si vous voulez vérifier, Lévitique 19, 8, par exemple, qui montre très bien que la formule « il portera son péché » signifie « il sera puni de la manière correspondante, il subira la sanction qui est prévue pour cette infraction. » Ça revient dans la loi. Il portera son péché. Dans certaines de nos traductions, on a rajouté le mot, le poids de son péché. Mais c'est simplement, il portera son péché. Il a porté nos péchés, signifie donc qu'il a été puni. C'est le sens même de cette expression. Et c'est le sens en particulier dans la grande prophétie d'Ésaïe 53, que Jésus lui-même a cité pour indiquer à l'avance à ses disciples le sens de sa passion, alors qu'il ne réussissait pas à le comprendre et à l'admettre, vous le rappelez. Mais Jésus a cité ce texte, et les premiers chapitres du livre des Actes montrent que c'est à ce texte en particulier que les disciples ont recouru pour saisir ce qui les avait tellement bouleversés et plongés dans un tel désarroi. Il y a un théologien qui a dit que au fond, c'était moins la christologie qui était mise en avant dans les premiers chapitres du livre des Actes qu'une païdologie. Païdologie, ça vient du mot païs en grec qui signifie seul serviteur, qui est utilisé pour la traduction du titre de serviteur qu'on trouve en Ésaïe 53. Après avoir été bouleversé, penser que Jésus les avait menés en bateau, etc., puis l'avoir rencontré ressuscité, se rendant compte alors que c'était bien le plan de Dieu, comment est-ce que les premiers disciples, les premiers chrétiens, se sont rendus capables d'y comprendre au moins quelque chose, et en recourant à Ésaïe 53, qui dit précisément qu'il a porté le péché d'une multitude, qui dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce passage, Ésaïe 53, expose, je ne vois pas comment il pourrait le faire plus fortement, plus clairement, cette affirmation que Jésus a subi. Le châtiment du péché des coupables à la place des coupables, alors qu'il n'y avait rien en lui qui l'aurait mérité. Aucune fraude, aucune. Mais Dieu a fait de lui le sacrifice de culpabilité. Il y a donc toute cette attestation vraiment fréquente. Et il y a la logique que développent plusieurs passages, dont celui que nous venons de lire. Je l'ai choisi en particulier pour cette raison. Vous avez un schéma qui est extrêmement clair, selon le régime de la loi, qui est le régime normal de la responsabilité. Selon le régime de la loi, celui qui fait ces choses que la loi prescrit obtient la vie, celui qui fait ces choses vivra par elles, mais personne n'y arrive. Maudit soit quiconque n'accomplit pas toutes les paroles de la loi. Nous sommes tous maudits, c'est-à-dire sous le châtiment. Ces expressions sont quand même à peu près équivalentes. Et voilà que celui qui, lui, a accompli pas pleinement toute la volonté du Père, qui est sans péché, il a été maudit. Car il a été cloué au bois, et là, la parole dit « maudit soit quiconque n'est pas pendu au bois ». C'est qu'il l'a été pour nous, dit l'apôtre. De telle sorte que, maintenant, nous ne sommes plus maudits, mais bénis, si nous mettons notre foi en lui, comme déjà par avance, Abraham l'avait fait. Vous voyez le schéma de la logique de cette doctrine est tout à fait nette dans ce passage de l'Épître aux Galates. J'aurais pu citer aussi une expression qui est très très forte dans, parce qu'elle est tellement dense, qu'on trouve dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, où l'apôtre explique que Dieu a par la mort de Jésus était juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est ça le, si j'ose dire, c'est une manière de parler trop humaine sans doute, mais c'était le problème pour Dieu. Comment être juste? Punir le péché, c'est l'aigle, c'est sa justice. Tout en justifiant, c'est-à-dire en acquittant, en déclarant juste. C'est ça ce que veut dire le mot. Celui qui a la foi en Jésus, alors qu'il a péché, alors qu'il est injuste dans sa conduite. Comment est-ce que c'était possible? Ça a été possible à cause de Jésus, qui a pris sur lui la culpabilité des coupables, de telle sorte que la justice de Dieu a été satisfaite, Dieu a été juste, tout en justifiant l'impie, celui qui ne méritait pas. C'est une expression qu'il emploie au chapitre 4 de l'Épître aux Romains, celui qui justifie l'impie, celui qui désobéit à sa loi. Vous voyez, la logique que développe en tout spécialement l'apôtre Paul, mais on trouverait des choses de même portée chez les autres auteurs bibliques, et en particulier dans l'Épître aux Hébreux, qui développe des choses très au détail. La logique va tout à fait dans le même sens. Comment donc ceux qui se disent encore évangéliques et qui affirment une certaine autorité de l'Écriture, s'en tirent-ils devant de telles données? En dehors de l'ignorance que j'ai découverte chez certains. La stratégie principale, c'est de dire « Oh, mais ce sont des images. Ce sont des métaphores qui sont employées là pour dire que, grâce à Jésus, nous avons la vie. Oui, oui, mais il ne faut pas prendre de manière plus particulière et précise ces versets. C'est une image qui est employée. Il y en a plusieurs. Il y a tout des jeux. Elles ne sont pas vraiment compatibles. Donc, il ne faut pas donner une portée doctrinale à chacune de ces métaphores bibliques. Je crois que c'est une échappatoire. Voilà ce que je suis obligé de dire. Des textes qui vont tout naturellement ensemble sont disjoints pour dire « Ah, mais oui, il n'y a pas d'unité, ce ne sont donc que des images. » Illustration, par exemple, que j'ai vue chez un théologien catholique, d'ailleurs. Hein. Mais on nous dit, oui, on nous parle de rançon, mais on ne dit pas à qui elle a été payée, on ne dit pas... Donc, voilà, c'est une image pour dire que nous sommes libres. On parle de dette, oui, mais on ne dit pas du tout que la dette a été payée. C'est simplement encore une image pour dire que nous sommes redevables à Dieu. Alors que les deux vont si naturellement ensemble. La rançon, c'est le paiement de la dette. Surtout qu'au chapitre 3 de cet épître aux Galates, un peu plus loin que le passage que nous avons lu, l'apôtre Paul souligne que nous étions prisonniers de la loi. Il emploie cette expression. Donc, la rançon libère de la prison, nous étions dans la prison de la loi, sous la condamnation, sous la malédiction, nous étions prisonniers. Et notre dette à l'égard de la justice, donc, était la rançon qui nous libérait de la loi. Ces choses-là vont parfaitement ensemble dans la doctrine telle qu'elle expose le Nouveau Testament. Mais voilà, on nous dit « Ah, mais voilà, c'est divisé pour régner, si vous voulez. » On divise ce qui va ensemble. Une deuxième considération qui me semble d'un très très grand poids, c'est que les métaphores privilégiées dans le Nouveau Testament, il y a deux cycles en quelque sorte qu'on pourrait dire privilégiés, ne sont pas des métaphores comme ça, tout à coup inventées parce qu'on cherche des images poétiques. C'est la métaphore du sacrifice. Alors on peut dire que c'est une métaphore, oui, parce que Jésus n'a pas été immolé par un prêtre sur un autel au sens littéral, vous voyez. Donc c'est une image. La métaphore du sacrifice est la métaphore précisément de la punition, de la condamnation, de la peine subie. Déjà dans Isaïe 53, les deux se trouvent, hein, puisqu'il est question de sacrifice, de culpabilité. Ces deux métaphores, mais elles sont privilégiées. Les sacrifices ont été institués par Dieu lui-même pour enseigner quel était le chemin de la réconciliation avec lui. Et on l'a ajouté pour préfigurer l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une métaphore comme ça. C'est précisément les images que Dieu a lui-même façonnées et instituées pour que le sens de la mission du Christ soit clairement reçu. Et quant à la peine, à la condamnation, à ce langage juridique qui ne plaît pas du tout aux théologiens modernes, aux modernistes en tout cas, ce langage-là, il est lié au fait que les juges sont établis comme des représentants de Dieu sur la terre, même quand ils sont impies. Il n'y a pas d'autorité de ces magistrats qui ne viennent de Dieu. Dieu les a institués précisément pour le représenter dans l'exécution d'un minimum de justice sur la terre. Donc ce sont des métaphores privilégiées. Et vous passez très aisément de l'une à l'autre. Ces métaphores et les autres qui sont employées forment un réseau très cohérent à partir duquel, précisément, nous avons des raisonnements. Et le grand raisonnement qui se branche sur ce que j'ai déjà présenté il y a un instant, et qu'on trouve donc au chapitre 3 de l'Épître aux Galates, c'est que c'est de cette façon que le salut est un salut absolument gratuit, par la foi seule, sans les œuvres. C'est parce que le Christ a subi à notre place notre châtiment que nous n'avons rien d'autre à faire que de l'accepter en nous joignant à lui. Vous voyez la force de l'attestation biblique qui se trouve, me semble-t-il, assez clairement possible à exposer. Mais que dire alors à ceux qui se scandalisent de cet enseignement, qui se révulsent dans leur sensibilité de moderne, tout spécialement, mais il y a eu déjà, je vous le dis, plus anciennement, des réactions négatives. Pour une part, donc, ils associent à la doctrine, que je viens d'essayer de montrer biblique, des représentations qui, je crois, sont fausses. Il lui impute des choses qui ne lui appartiennent pas. Alors, certains accusent ceux qui affirment la substitution pénale de rejeter toute autre présentation de la mort de Jésus et de l'effet de son œuvre. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il est parfaitement légitime de présenter aussi Jésus comme le modèle dont nous suivons les traces. Le modèle de fidélité au Seigneur, le modèle de courage face à l'adversaire, venu pour rendre témoignage à la vérité, comme il le dit devant Pilate, et bien sûr, et d'ailleurs dans le texte de la première épître de Pierre, chapitre 2, que j'ai évoqué il y a un instant, avec la citation d'Ésaïe 53, il y a l'affirmation que nous suivons les traces de Jésus, qui a porté nos péchés sur le croix, suivant ses traces. Donc, il est parfaitement légitime de dire qu'il y a d'autres facettes, nous ne nions pas. Il y a la représentation de la mort de Jésus comme un combat contre l'adversaire, un duel à mort où il a triomphé de la puissance du mal. Alors, cette représentation est souvent, par les critiques de la doctrine de la substitution pénale, mise en valeur en disant « voilà, au fond, ce qui est beaucoup plus convenable, la représentation comme un grand duel, un combat où Dieu triomphe du mal. » Il est tout à fait légitime de dire « c'est une autre représentation tout à fait acceptable. » Alors je crois avoir pu montrer qu'en fait, il y a un lien avec « Jésus puni à notre place ». Et je le trouve tout spécialement au chapitre 12 de l'Apocalypse, où il a dit que ceux qui ont triomphé du dragon l'ont fait par le sang de la croix. Car le dragon, c'est l'accusateur de notre cœur. La puissance du diable sur la vie humaine, c'est celle de l'accusation, et de l'accusation fondée. Il joue la justice de Dieu contre l'amour de Dieu. C'est le diable. La puissance du péché, c'est la loi, dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. La puissance du diable, c'est de dire « Ah, tu ne peux rien avoir à faire avec ces hommes, ils ont péché contre toi, tu es juste, tu as dit, celui qui mangera de ce fruit de la prétendue indépendance mourra, donc c'est la force du diable. C'est là son arme. Et la croix le désarme. Et le livre publiquement en spectacle comme vaincu. Parce que précisément l'accusation n'a plus de fondement. La dette a été payée. La justice est satisfaite. Vous voyez le lien que le Nouveau Testament nous permet de reconnaître. Mais ne nions pas que la présentation de la croix comme un combat victorieux est aussi tout à fait légitime. Autre idée que certains associent, mais qui n'ont pas à être associée, l'idée que pour que la substitution soit authentique, il faudrait que Jésus ait subi exactement le même châtiment que les damnés. Et donc, un châtiment éternel. Et comme ça n'a pas été éternel, ils disent, non, voilà, il n'y a pas eu vraiment substitution. Ça, c'est un argument que certains emploient. Alors, je crois vraiment que c'est un calcul sordide, hein, que l'équivalence pour la justice de Dieu de la mort de Jésus, le Fils bien-aimé, Dieu le Fils bien-aimé, n'a pas besoin que dans tous les détails, cela corresponde au châtiment éternel des coupables. Il suffit de considérer la personne de Jésus pour considérer que sa mort a la valeur, et bien au-delà encore, d'une substitution pour tout le châtiment éternel. Et d'ailleurs, je plaide que l'on peut... Pardon.
Je vais changer la pile, parce que...
Je plaide tout spécialement que si le châtiment des damnés est éternel, c'est parce que c'est le dernier mot, la dernière phase. La patience de Dieu à supporter qu'ils narguent Dieu pendant tout le temps de leur vie, et c'est fini, la patience est finie. Dans la lumière du jugement, ils voient leur péché tel qu'il est. Et c'est la deuxième mort. Ils n'ont plus d'avenir, c'est tout. C'est un état que je suppose fixe. Et donc, c'est pour ça qu'il est éternel. C'est le dernier mot, forcément. S'il n'y a pas eu substitution. Donc, ce n'est pas que l'éternité en elle-même soit une composante nécessaire du châtiment comme tel. Donc, je pense que cette deuxième façon de critiquer la doctrine, vraiment manque d'intelligence, quoi. Troisième troisième idée fausse qu'on associe, je ne vais pas chercher toutes les idées fausses qu'on pourrait associer, hein. Le troisième que je signale, l'idée que nous n'aurions pas à mourir. Nous n'avons pas à mourir en châtiment de nos péchés, puisque Jésus a pris le châtiment de nos péchés. Mais il y a deux formes de mort par lesquelles, mettons notre foi en Jésus-Christ, nous passons aussi. La première est tout à fait nécessaire, c'est la mort à notre ancienne façon de vivre. C'est la mort à cette existence corrompue et spirituellement malade dont nous sommes délivrés. Mais c'est représenté comme une mort. Nous sommes morts au péché. Nous nous unissons à Jésus dans le passage de toute la sphère de la mort dont il a pris le poids sur lui, et nous sommes propulsés dans la vie nouvelle. C'est tout spécialement ce qu'on trouve au début du chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Donc, en un sens, nous mourrons avec le Christ pour revivre avec lui. Mais ce n'est pas le châtiment. Le châtiment, il l'a pris. Au fond, c'est la libération. Et puis, d'autre part, sauf la dernière génération qui sera encore sur la terre au moment où le Seigneur Jésus paraîtra dans sa gloire, il y a encore une mort selon la chair. Mais cette mort a perdu son venin. On a pu la comparer à un frelon auquel on aurait enlevé son dard. Il continue à voler, il fait peur encore. Et il est normal que nous ayons une sorte de réaction de peur face à la mort physique, mais nous savons que le dard en est enlevé, qu'il n'y a plus de venin à nous inoculer, que la mort est vaincue, même si elle continue encore de s'exercer sur la chair. Et la première épître de Pierre, un peu plus loin, au chapitre 4, nous dit que ceux qui sont morts en Christ sont morts selon les hommes quant à la chair, mais ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, oui, il y a encore, sans que ce soit une nécessité absolue, puisque la dernière génération ne la connaîtra pas, il y a encore cette conséquence du fait que la rédemption nous est appliquée dans notre être intérieur, mais que le corps attend encore sa rédemption. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 23. Nous attendons encore la rédemption de notre corps. Donc, notre corps connaît encore la mort, notre existence terrestre. C'est une conséquence du péché, mais ce n'est pas un châtiment. L'aspect de châtiment est éliminé. Nous sommes jugés selon les hommes, par solidarité avec l'humanité, parce que la rédemption n'est pas encore appliquée à notre corps. Mais ce n'est pas donc du tout incompatible avec la proclamation que Jésus a entièrement payé notre dette, versé notre rançon dans sa vie pour nous libérer de la condamnation et donc de la puissance du péché. Les aiguillages décisifs, à partir de quels choix devant des questions clés, les chemins divergent-ils, conduisent-ils à la reconnaissance de la doctrine que je crois donc biblique et vraie, ou bien alors vers ces idées fausses, mais qui plaisent davantage à la modernité. Je pense que le principal des aiguillages, vraiment très important, c'est la question de la justice rétributive, c'est-à-dire celle qui, précisément, règle l'administration d'un châtiment mérité par le coupable. La justice rétributive, c'est celle qui rend son salaire, hein, de la rétribution, c'est le salaire du péché, c'est la mort. La justice rétributive, c'est celle qui dit, lorsque quelqu'un a mal agi, la justice réclame un châtiment pour cette personne. la justice rétributive est très fortement attaquée dans la pensée contemporaine. Au point que cela suscite une crise, que je vais indiquer dans un instant. Mais vous avez un certain nombre de théologiens qui la rejettent, alors qu'elle est massivement affirmée dans la Bible. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Combien de fois cela est-il dit ? Au chapitre 51 de Jérémie, verset 56, il est dit qu'il est un Dieu de rétribution. C'est ainsi qu'on peut traduire le terme utilisé dans ce verset. Donc, cette justice rétributive est attaquée. Pourquoi ? Je crois que foncièrement, il y a le refus d'une instance supérieure qui pourrait nous juger, à laquelle nous devrions rendre compte. Et ça, ce que l'on dit, hein, qui se prétend premier et dernier, ne tolère pas. Et s'il y a une loi qui décrète que la transgression doit être suivie d'un châtiment, ça veut dire que je ne suis pas suprême, qu'il y a une loi au-dessus de moi. Et cela me semble intolérable à la sensibilité de beaucoup. D'où une crise de notre système judiciaire. On n'ose plus tellement, en tout cas, plus tellement dire que la sanction prononcée par le tribunal est ce que mérite le criminel. Ah non, alors on va essayer de justifier par la réinsertion, par l'exemplarité pour que le corps social... Ces fonctions, elles sont des fonctions que le châtiment peut en effet remplir, mais si le principe de rétribution est d'abord admis. Parce qu'autrement, si c'est l'exemplarité, alors autant prendre n'importe quel innocent pour faire un exemple. C'est l'arbitraire des tyrannies que quand même la plupart condamnent. Si c'est une question de d'amélioration de ce qu'on trouve comme une sorte de pathologie sociale chez le criminel. Et ça veut dire que même s'il n'a rien commis, si on a l'impression qu'il est malade, on a le droit de le mettre en prison. S'il ne l'a pas mérité, si on n'a pas d'abord cette notion du mérite, il y a une crise de la justification même du système judiciaire et du fonctionnement judiciaire. En fait, ça ne fonctionne pas entièrement comme ça parce que le sens de la justice rétributive, il est ancré au cœur de l'homme. Et ça fait partie de cette inscription dans le cœur de l'homme de la loi de Dieu qu'évoque l'Épître aux Romains au chapitre 2. Même très déformé, il demeure. Moi, j'ai été très impressionné il y a déjà longtemps que j'ai lu cela, mais c'était peut-être dans l'Express, je ne sais plus, mais il y avait un criminologiste. Professeur de criminologie à l'université de Louvain, appelé Étienne de Greff, qui disait que même chez les criminels les plus endurcis, il a toujours trouvé quand même encore ce sens de la justice. Alors, je sais que la psychopathologie peut peut-être trouver des pervers chez qui c'est pratiquement impossible à trouver encore. Tant ils sont malades. Mais chez des criminels, même très très forts, c'est encore présent. Et il s'agit au fond de se heurter à la réalité d'un monde spirituel, moral. De même que lorsque on se lance contre un mur, on se fait mal. Et l'énergie de ce qui cause le mal est exactement l'énergie qu'on mise à se précipiter contre le mur. Physiquement, c'est à la mesure même de l'énergie que vous avez mise à vous cogner que vous recevez en retour ce qui vous blesse. C'est une vérité de la physique. Je dirais de même le châtiment représente le choc en retour qu'on subit quand on se heurte à l'ordre du monde spirituel. Il y a un bien, il y a un mal, il y a une loi qui est l'expression même de la nature de Dieu, et lorsqu'on va contre, on se fait mal. C'est la loi même de cette rétribution. Donc, je pense que nous devons reconnaître cette loi de la rétribution, mais à partir du moment où on la refuse, alors on refuse l'idée que Jésus aurait pris précisément la rétribution due à nos péchés sur lui. Mais il y a encore, toujours lié à cette question, d'autres aiguillages qui se produisent. Certains disent, d'accord, la loi de rétribution joue. Mais ce que le Nouveau Testament nous recommande, c'est de pardonner sans exiger la rétribution, sans chercher cette punition, ce mal en retour qui tombe sur le transgresseur. C'est le pardon gratuit. Alors, si Dieu nous le commande, donc nous ne pouvons pas lui imputer une forme plus avare, en quelque sorte, de pardon. Vous voyez la manière dont la critique peut être énoncée. Je crois de nouveau que c'est un malentendu profond par rapport à l'enseignement biblique. Ce que l'enseignement biblique nous dit très clairement, c'est ne vous vengez pas vous-même, n'exigez pas cette choc en retour du transgresseur. Car Dieu dit à moi la rétribution. C'est la fin du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Dieu étant le garant de la justice, étant le souverain qui règne sur ce monde spirituel, il se charge de la satisfaction de la justice. De telle sorte que nous n'avons pas besoin, dans nos rapports mutuels, de nous soucier de la satisfaction de la justice comme nous donnons notre pardon. Si quelqu'un nous demande pardon, c'est Dieu qui s'occupe de la satisfaction de la justice. Oui. L'apôtre Paul le dit très clairement. Il fonde cette exhortation au pardon gratuit sur le fait que Dieu s'en occupe, que Dieu dit à moi la rétribution dans ce passage. Alors bien sûr, si Dieu l'exigeait de quelqu'un d'autre, nous pourrions avoir quand même la dissentie. Mais c'est lui qui précisément se charge de satisfaire sa propre justice, d'être juste tout en justifiant. C'est lui qui paye la dette. C'est là le grand message. Mais il y a encore d'autres objections qui viennent et qui appartiennent donc à cet aiguillage décisif. Certains disent, oui, mais la culpabilité, ça ne peut pas se transférer. C'est pas juste. Si quelqu'un paye pour un autre, c'est pas juste. Donc la loi de la rétribution exclut cela. La personne qui a commis l'acte, elle a commis l'acte, c'est tout. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un principe qui est énoncé dans l'Ancien Testament, en particulier au chapitre 18 d'Ézéchiel, puis ça, il y a pas répète au chapitre 32-3. C'est vrai, me semble-t-il, dans une situation où simplement les individus sont considérés les uns à côté des autres, juxtaposés, comme les pions, si vous voulez, sur un damier ou sur un échiquier. Oui, il n'est pas juste que M. Dupont paye pour M. Durand. Oui, non, d'accord. C'est vrai. Et ce n'est pas la justice de Dieu. Mais il en va autrement quand il y a un lien de solidarité et de représentation entre les personnes en cause. Nous savons tous que lorsque un enfant casse un carreau, c'est les parents qui payent. Et c'est pas anormal, c'est juste, parce qu'ils sont dans la dépendance des parents, parce qu'il y a un tel lien organique, communautaire, dont les parents sont responsables. C'est même le cas dans le couple. Il est très intéressant d'avoir au livre des Nombres, chapitre 30, verset 16, l'expression « porter le péché » pour le mari lorsque sa femme a fait un vœu qu'elle n'a pas tenu, a fait un vœu auprès du Seigneur qu'elle n'a pas tenu, et qu'il était au courant quand même. Là, nous avons cette expression, une substitution, parce que c'est le mari, et que le mari et la femme sont une seule chair. C'est cette communauté qui permet le transfert, la substitution juste, alors qu'une substitution n'importe comment ne le serait pas, entre Jésus et ceux qui bénéficient de sa substitution, ce n'est pas n'importe comment. Jésus se donne comme le berger pour ses brebis, comme l'ami pour ses amis, comme la tête pour son corps, comme l'époux pour l'Église, son épouse, comme le nouvel Adam pour l'humanité qui dépend de lui. C'est en vertu de ce lien organique et communautaire que Jésus peut être très justement le substitut de ceux qui mettent leur foi en lui. Car ça nous explique pourquoi il faut mettre sa foi en lui. S'il a tout payé, pourquoi alors encore la foi? Mais parce qu'il s'agit d'être de son corps, d'être de l'humanité nouvelle, dont il est le nouvel Adam, de participer à la nouvelle création. C'est ce qui nous éclaire le rôle de la foi, qui n'est pas une œuvre de plus, mais qui est la mise dans la situation qui rend possible la justice de la substitution du Christ, de telle sorte que sa substitution vaut pour nous. Si beaucoup de nos contemporains ne voient pas cela et ne voient pas cela, c'est en grande partie à cause de cette divinisation de l'individu humain qui se traite comme le premier et le dernier, ce que je veux et c'est tout. Aucune loi au-dessus de moi, aucune solidarité qui m'est imposée, je fais ce que je veux. À partir de là, effectivement, un individu pur ne peut pas bénéficier d'une substitution. Mais c'est une vision profondément mensongère de l'être de l'humanité. Mais dira encore quelqu'un dans protestation, c'est quand même impensable que Dieu ait puni son fils bien-aimé, qu'il ait fait sentir sa colère contre le péché, c'est-à-dire sa juste indignation contre le péché. Alors là, il faut dire deux choses, me semble-t-il. La première, c'est que cette colère de Dieu n'empêche pas qu'il, en même temps, il aime son Fils d'un parfait amour. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est en tant que représentant des pécheurs, tête de ce corps formé de pécheurs, que Jésus subit la colère de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'éprouve plus dans son âme humaine cet amour de Dieu qui était l'essentiel, toute son expérience depuis le sein maternel. Donc, il subit la colère de Dieu. Mais en même temps, c'est en tant que représentant, mais il est le Fils bien-aimé qui accomplit par là la volonté du Père à laquelle il adhère totalement. Vous voyez, il y a cette dualité. Il est le personnage qui représente le péché en tant que tel, mais il aime la personne du Fils plus que jamais, si j'ose dire, parfaitement dans l'unité. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que oui, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Mais ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais qui sont comme tels dignes du vrai Dieu. Aucun Dieu imaginé par les hommes, aucune des divinités de tous les polythéismes et même monothéismes, n'a été jusque-là. Seul le vrai Dieu montre sa supériorité infinie par rapport à tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Seul le vrai Dieu a été jusque-là. La formule de Tertullien, c'est qu'on résume souvent, mais ce n'est pas exactement ça, je crois, parce que c'est absurde, mais il dit, c'est vrai parce que c'est impossible. Oui, elle s'appelle bien là. C'est la signature du vrai Dieu par opposition à tout ce que nous pouvons forger comme image de divinité qui s'atteste dans cet impensable de la bonté de Dieu qui a été jusque-là. Là, ce sont les aiguillages clés. Alors maintenant, quelques réflexions pour dire le fruit que nous pouvons retirer de la méditation de ce sujet. Je crois que c'est dans le prolongement de ce que je viens de dire que nous avons vraiment là la révélation suprême de l'amour. On ne peut pas concevoir d'amour plus grand que celui-là. Dieu lui-même, allant jusqu'à la personne de son Fils, prendre la chair humaine pour pouvoir supporter le châtiment mérité par les coupables, par amour pour eux, supportant cela, l'extrême, vraiment, il n'y a pas de plus grand amour que non seulement de donner sa vie pour ses amis, mais de la donner dans ces conditions, de la donner en subissant vraiment le poids de la condamnation, de la malédiction à leur place. Je pense que notre pensée éclate là. Deuxième réflexion. Notre intelligence éclate. Elle est toute bouleversée comme nous nous rendons compte de ce que cela représente. Mais en même temps, quand même, il y a une certaine logique qui peut être développée, comme je l'ai montré dans le passage de l'Épître aux Galates. Il y a une certaine logique. Nous réussissons à comprendre quelque chose. Nous ne comprenons pas tout. Mais, comme dans un miroir en énigme, nous comprenons quelque chose de ce qui a conduit Jésus à la croix. Et cela me semble être aussi une expression de l'amour de Dieu. Il ne veut même pas seulement nous sauver sans que nous ayons rien fait pour cela, mais sans que nous y comprenions rien. Il nous accorde, nous adoptons comme ses fils et ses filles, au-delà du simple acquittement. Il nous élève comme des fils et des filles jusqu'à une certaine compréhension de son œuvre. Par la doctrine qu'il nous enseigne dans les textes que nous avons évoqués. Jésus disait à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, je vous appelle ami, parce que serviteur ou esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais moi je vous ai dit. Je pense qu'on peut appliquer cela aussi au sens de la croix. Le Seigneur nous en dit quelque chose pour que nous comprenions comme fils et filles privilégiés, quelque chose du sens de cet événement obscur entre tous, nous comprenons quelque chose. Et la troisième réflexion que je vous propose, c'est de dire, nous voyons comment Dieu triomphe du mal suprêmement. Dieu ne triomphe pas du mal simplement parce qu'il est le plus fort. Le mal, étant le fait de la créature, finalement, ne peut mettre en œuvre qu'un quantum d'énergie fini. Et puis alors Dieu, avec son énergie infinie, pulvérise le mal. Si Dieu avait agi comme ça, le mal aurait été vaincu en tant que quantum d'énergie. Pas en tant que mal. Dieu triomphe du mal comme un mal, en le retournant contre lui. Il fait du mal suprême, la crucifixion de son propre fils du juste, objet de la haine de l'humanité qu'il vient sauver, il fait de ce mal suprême le moyen de la victoire sur le mal. Le diable est privé de son arme, l'accusateur ne peut plus accuser les frères. Par le sang de Jésus, c'est par cette faiblesse de Dieu, plus forte que les hommes, que le mal est vaincu comme mal, retourné contre lui-même. Je trouve que nous avons lieu d'admirer la sagesse de Dieu, cette sagesse en mystère, cette sagesse que tous les plus grands intellectuels humains n'ont pas réussi à discerner. Cette sagesse qui arrache à l'apôtre ce cri aux profondeurs de la richesse et de la sagesse de Dieu. Voilà, me semble-t-il, ce que la révélation du sens de la croix comme châtiment subi à notre place par amour, par celui qui est le chef du corps que nous formons. Voilà ce que cela nous permet de penser.